Livre des Actes, chapitre 17, du verset 21 jusqu'à la fin. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira d'au milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aréopagite, une femme dénommée Damaris et quelques autres avec eux.
En Corinthiens 2, verset 2, où il est dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est mon texte de ce soir. C'est étonnant quand on voit ce texte, ce verset provenant de l'apôtre Paul. Vous savez qu'il était un érudit. Il a fait ses études à la plus grande faculté, surtout de Jérusalem et des alentours. Il était au pied de Gamaliel, qui était le plus grand des professeurs à cette époque-là, et il était à ses pieds pour apprendre. Donc, il a appris non seulement la religion juive, tout ce qui concerne l'Ancien Testament et le reste, mais il a fait aussi des études sur la philosophie, sur ce qui était enseigné à Athènes, justement, n'est-ce pas? Et il était au courant de tout ceci. Cela dit, on se demande comment un homme comme cela, avec tant d'instructions, avec tant de connaissances, il dit, j'ai déterminé, il y a une autre traduction qui disait, j'ai déterminé de ne rien connaître que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, un message simple, on vous dit simpliste. Lui qui aurait pu parler des choses à ne pas finir, n'est-ce pas, épater l'auditoire. Non, il a dit, mon message, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Point. Point. C'est ça qui est extraordinaire. On peut se poser la question, comment se fait-il qu'il est arrivé à dire une chose pareille? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui l'a poussé à le faire? Nous venons d'entendre la lecture de ce qui s'est passé lorsque Paul était à Athènes. Athènes, c'était le centre de culture du monde entier. la culture grecque. C'était peu de temps avant, les Grecs dominaient le monde entier, l'Empire grec. Alors, il était là dans le capital. Et là, ce message est extraordinaire. Vous avez remarqué ce message? Comment Paul a pu entrer quand il discourait avec les Athéniens, les uns après les autres, ils ont dit, mais quand même, il faut que tu nous parles. Alors l'Areopage, c'était l'endroit idéal, c'est là où les grands philosophes donnaient leur doctrine. Alors, ils étaient tous là devant lui, et il commençait son discours en disant, voilà, en parcourant la ville, j'ai remarqué que vous avez beaucoup d'idoles ici dans la ville. Il paraît qu'il y avait plus d'idoles qu'il y avait de rues. Il y avait quelquefois plus d'une idole dans une seule rue. Alors, il y en avait dans cette ville. Et lui, il tombe carrément sur l'idole qui disait au Dieu inconnu. Et c'est-à-dire qu'ils avaient peur d'oublier un. Alors, ils étaient faits à l'image des animaux, de soleil, de tout. Ils avaient tout. Et de peur d'avoir oublié un Dieu, alors, au Dieu inconnu. Alors, il s'est accroché à cela avec une finesse. Il a dit, je vous prêche le Dieu inconnu. Un Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Et nous avons été faits à son image. Donc, nous sommes une seule race. Et c'est vrai, quand on y pense, nous sommes une seule race, la race que Dieu a créée. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Mais j'irai plus loin, nous sommes tous descendants de Noé. Parce que quand ça a recommencé, nous étions là, tous, à Noé. Une seule race. Alors, il continue et il explique que Dieu n'est pas loin. Au fait, il est à côté de nous. On n'a pas besoin de le chercher aux extrémités de la terre. Il est ici, il est à côté de nous. Et puis, il dit, maintenant, c'est le temps de se repentir. Changez votre idée sur Dieu. Commencez à adorer le vrai Dieu, non pas une de ces idoles là que vous voyez, mais Dieu lui-même. Alors, parce que, disait-il, qu'il y a un jour fixé où Dieu jugera le monde. Alors, préparez-vous à la rencontre de ton Dieu. Alors, voilà son message. Alors, à la fin, il y avait des gens qui ont dit, voilà, on veut t'entendre une autre fois. Mais il y avait même ceux qui ont dit, j'aimerais savoir plus maintenant. Et quelques-uns ont accepté le message et furent sauvés ce jour-là. Alors, quel beau message! Quel beau message! Alors, quand il a quitté Athènes, il s'est rendu compte que c'était un échec lamentable. Est-ce que vous avez bien regardé ce message? Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a même pas prononcé le nom de Jésus-Christ? Qu'il n'a jamais parlé de la croix? Il n'a jamais parlé de leur péché, qu'ils étaient perdus? Il n'a pas présenté comment on accepte Jésus-Christ par la foi? Au fait, il n'a pas prêché l'Évangile. Oh, il a cité un de leurs philosophes. Il a voulu vraiment, avec toute sa connaissance, les épater. Excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça. Et quand il a fini, il a quitté la ville d'Athènes. Vous savez qu'il n'a jamais commencé une église à Athènes? Vous n'avez pas une lettre écrite à l'église d'Athènes. Même personne d'autre a commencé une église là-bas. C'est un échec lamentable. Alors, il s'en va à Corinthe. Probablement, il est allé à pied. Vous savez, quand on va à pied, on a le temps de réfléchir. Alors, il a dit, oh là là, là là, là là, j'ai fait une bêtise, j'avais une occasion d'or. J'avais la crème d'Athènes devant mes yeux, et au lieu de prêcher Jésus-Christ et le salut, je voulais les épater avec ma connaissance de la philosophie, etc., etc. Oh là là, ça a été dur. Il a appris quelque chose. Il a appris, et moi aussi j'ai appris en le regardant. Vous savez, quand on a un échec, il ne faut pas s'arrêter sur l'échec. C'est toujours un danger. Il faut penser à ce petit garçon qui court et qui tombe. Et qu'est-ce qu'il fait quand ce garçon tombe? Il se relève. Il ne reste pas sur son ventre. Il se lève. On doit le faire. Je me rappelle, j'avais de ces échecs comme ça. J'avais des échecs tels que j'avais aussi presque envie de quitter le ministère. Je me rappelle à Brno, en Tchécoslovaquie, on m'a invité à prêcher dans la grande église de Brno. Oh, il devait avoir à peu près 1000 personnes dedans. Alors, j'étais là, sur l'estrade, un jeune prédicateur. On m'a traduit. Et puis, à un moment donné, j'étais tellement confus dans mon message que le pasteur a dit, excusez-moi, mais si vous voulez vous asseoir, on a quelqu'un d'autre qui peut parler. Vous savez, hein? Pour être humilié, hein, c'est une humiliation, hein, de premier ordre. Hein. Je me suis assis là et je me rappelle des fois quand j'avais la tente d'évangélisation, que j'ai dressé là une tente. Une fois j'ai dressé une tente et il y avait une vague de froid qui a commencé le soir même que j'ai dressé la tente. Et ça a duré pendant tout le temps qu'on était là. Je crois qu'il y avait une seule personne pendant une semaine qui est venue. Vous savez, des échecs comme ça, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, vous aussi, si vous travaillez pour le Seigneur, si vous allez dehors et vous invitez les gens, et vous faites de tout votre cœur, il ne faut pas croire que chaque fois que vous ouvrez votre bouche, quelqu'un va accepter le Seigneur. Quelqu'un, ils peuvent vous renvoyer, ils peuvent dire des méchancetés. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Mais je sais ce qu'on veut faire à ce moment. Ah bébé, si c'est comme ça. Hein. J'ai compris, bon, n'est-ce pas? Si les gens veulent aller à l'enfer, mais je ne veux pas les empêcher. Hein. Ça, c'est presque l'attitude qu'on a à la fin. Non, il faut se lever. Comme Paul, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a reconnu qu'il a fait une gaffe. Et quand il est arrivé à Corinthe, vous avez remarqué le verset là? Je vais vous le relire. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée où j'ai déterminé de connaître pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ. Je ne suis pas allé chez vous avec la sagesse, mais je suis allé auprès de vous avec le message principal. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous savez que le mot le plus difficile à prononcer quand vous êtes avec quelqu'un, c'est le mot Jésus-Christ. Vous pouvez parler de Oh, nous avons un pasteur extraordinaire, ça sort, hein. Faut pas le dire, hein. Mais ça sort. Nous avons une bonne église, tout ça, on peut le dire. On peut même parler de Dieu. Oui, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela, mais je suis bien avec Dieu, et voilà, etc. Mais le moment de dire Jésus-Christ, mais ça sort pas, hein, ça se coince dans la bouche. Hein. C'est Jésus-Christ qui sauve. Hein. C'est pas Dieu, c'est Jésus-Christ qui sauve. Bien sûr, Jésus-Christ est Dieu, mais je veux dire, il est le chemin qui mène à Dieu. Il faut prononcer son nom. J'aimais beaucoup ce que Eliane m'a dit un jour quand j'étais là, j'ai parlé, et elle m'a dit ceci, et je n'ai pas oublié ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, pendant longtemps, j'ai tourné autour du pot. N'est-ce pas, je voulais être gentil, je ne voulais pas forcer la dose, j'étais, n'est-ce pas. Puis finalement, je me suis dit, c'est pas la peine, autant le dire Jésus-Christ au début, et puis allons-y. Dites le message principal. J'ai connu pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, il y a un message là-dedans. Jésus, c'est son nom propre. Jésus était le nom qui lui a été donné par ses parents, par Dieu même. Tu l'appelleras Jésus. Jésus, c'est comme un sauveur. Alors, les gens, les pasteurs libéraux, parce que j'ai connu ça dans ma jeunesse, les pasteurs libéraux sont ceux qui parlent toujours de Jésus, mais pour eux, Jésus n'est qu'un homme. Un homme merveilleux. Un homme merveilleux, mais un homme. Alors, ils disent, voilà, ce qu'il faut faire, il est notre modèle. Il faut le suivre. Pour aller au ciel, il faut suivre Jésus. J'aime beaucoup ce petit garçon. Il venait de neiger. Et son papa venait de partir pour aller au travail. Alors, il ouvre la porte derrière son père et son père marche. Alors lui, il a voulu mettre ses pieds dans les empreintes de son père. Mais chaque fois, il tombait à court. Et il a dit, papa! Et son père se retourne. Voilà, il était en train de le suivre dans la neige. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais papa, tu fais des pas trop éloignés les uns des autres. C'est impossible de mettre nos pieds dans l'empreinte de Christ. Ses pieds sont trop grands. Nous ne pouvons pas être comme... Nous ne pouvons pas être Christ. Vous savez, il était le Fils de Dieu. Il était plus que Jésus. Il était Jésus-Christ. Il ne faut pas simplement parler de Jésus. Il faut parler de Christ. Parce que Christ, c'est un titre. Ce n'est pas son nom de famille, c'est un titre. Il est le Messie. Les Juifs savent ce que ça veut dire, le Messie. Mais nous, pour nous, c'est Christ, Fils de Dieu. J'aime son titre total. Le Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est Dieu. Jésus, son nom personnel. Christ, son titre. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est ça qu'il faut. Alors c'est ça qu'il faut faire ressortir quand vous parlez avec des gens. Christ, c'est son titre de divinité. Puis, il dit Jésus-Christ crucifié. Il ne faut pas s'arrêter avec Jésus-Christ. Il faut aller plus loin en disant il est mort. Savez-vous que la plupart des gens ne savent pas pourquoi Christ est mort? On va célébrer ça vendredi. Les églises seront remplies des gens qui vont venir célébrer sa mort vendredi soir. Mais si vous demandez Mais pourquoi Christ est-il mort? Alors là, il serait bloqué. Oh, pour les uns, c'était un martyr, il est mort pour sa cause. Pour d'autres, non, il est mort pour nos péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il est mort pour nos péchés? Oh, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas que quand Christ est mort sur la croix, il n'a pas payé pour la moitié de nos péchés, pour nous laisser l'autre moitié à payer nous-mêmes, par nos souffrances, par nos bonnes œuvres, etc. Il a payé la totalité. Les gens dehors ne savent pas cela. Ça, c'est notre message. Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés afin que tout soit payé et la dette remise. Il est mort pour tous, pour nous tous et pour tous nos péchés. Donc, est-ce que tout le monde est sauvé? Si Christ est mort pour tout le monde et pour les péchés de tout le monde, est-ce que tout le monde est sauvé? Alors là, non. À ceux qui le reçoivent, il réserve le salut pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui croient, pour ceux qui mettent leur confiance. C'est un message extraordinaire. J'aime parler avec des gens. C'est intéressant. J'avais une occasion cette semaine avec le docteur que je suis allé voir. Alors là, j'ai pris le temps de lui dire, vous savez, ma place est réservée au ciel. Ah bon? J'ai dit, oui, c'est réservé. Ah bon? Oui, j'ai dit, voilà, il y a longtemps, je l'ai accepté, donc j'ai la certitude d'aller au ciel. Ce que beaucoup de gens ici à Paris n'ont pas. Hein? Oui. Alors, vous savez que quand Christ est mort, il est mort pour tous nos péchés. Alors, il a écouté, puis à la fin, il a dit, je n'ai pas manqué un seul mot. Hein. C'est intéressant, ça. Il n'avait jamais entendu ça. Christ est mort pour nos péchés. Voilà le message. C'est ça que Paul n'a pas prêché à Athènes. Il s'est rendu compte qu'il a fait un échec là. Mais quand il est arrivé à Corinthe, il a prêché ce message simple, direct. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une église à Corinthe. La preuve. Il y a cet épître, même d'autres, trois épîtres à Corinthe. Une épître était perdue, mais les deux autres sont ici. L'église à Corinthe. L'église parce qu'il a prêché la simplicité, le message. Christ mort pour nous, ressuscité et venant bientôt. Voilà le message que nous avons à prêcher. Le tout, c'est de présenter. Vous savez que quand Jésus était sur terre, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que quelqu'un oserait dire cela, si ce n'était pas vrai? Moi, personnellement, je ne pourrais pas le dire. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le dire, celui qui m'a vu a vu le Père. A vu Dieu, n'est-ce pas? Moi et le Père, nous sommes un. À moins qu'il soit un peu toqué. Parce qu'il y a des fous, il y a des fous. Ma femme, une fois, a parlé avec une dame. Elle a dit, oui, je suis intéressé à ce que vous dites, mais vous le savez, je suis Dieu. Voilà. Bon, alors, quand vous avez quelqu'un comme ça devant vous, hein, c'est... Je ne sais pas ce qu'il faut dire à ce moment. Hein. Je vous laisse chercher mon propre mot. Mais Jésus-Christ a dit cela. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il était Dieu sur terre. Il était venu. Ça, c'était sa raison d'y être. Mais vous savez, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous laissions Christ vivre à travers nous. Est-ce que vous pouvez dire, celui qui m'a vu a vu le Christ? Est-ce que vous pouvez dire ça? Si vous pouvez le dire, ne le dites pas quand même. Hein. Parce que là, ça serait d'aller trop loin. Si vous êtes l'image de Jésus-Christ, laissez les autres le dire et non pas vous. Je vais vous dire une chose. À plusieurs reprises, avec plusieurs parmi vous, j'ai vu Christ en vous. Je l'ai vu en vous. Oh, pas à chaque moment, pas tous les jours, mais il y avait des moments. Pourquoi je dis ça? Parce que Christ habite en nous. Et c'est normal que les gens voient Christ en nous. Nous sommes l'emballage de Christ. Il est en nous. Je pense à un arbre de Noël. Imaginez un arbre de Noël avec des cadeaux en dessous. Alors chaque cadeau, merveilleusement emballé, avec du ruban, avec toutes les décorations possibles. Et puis, dans un coin sous l'arbre, il y a quelque chose enveloppé par les vieux journaux, avec un cordon comme ça autour. Alors, c'est pas vers celui-là que vous allez en premier lieu. C'est celui qui est joliment emballé. Mais vous savez, celui avec des journaux, peut-être justement le cadeau le plus précieux qu'il y a. Mais parce que l'emballage est tellement non attirant que personne ne veut l'ouvrir, que notre emballage soit d'une telle façon. Christ vit en moi, dit Paul. Christ vit en nous. S'il vit vraiment en nous, on doit refléter Christ à tel point que des gens de dehors puissent dire, voilà, c'est toute cette église, on dit que c'est rempli de Jésus-Christ là-bas. Tout le monde lui ressemble. Oh, que c'est beau ça. Alors c'est ça qui attire. Nous avons le message à nous, et puis nous avons le message à donner. Et comment le donner? On m'a posé cette question l'autre jour. Que dois-je dire? Que dois-je dire quand je rencontre quelqu'un? Comment je dois le présenter? Moi, je crois que la meilleure chose, c'est de simplement dire, vous savez, ma vie a été changée. Il y avait un jour dans ma vie où tout a changé. Et c'est le jour que Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Voilà, tout de suite, vous entrez dans le vif du sujet. Et vous parlez comment Christ vous a changé. Vous parlez plus de Christ que de vous, quand même. Hein? C'est lui qui est mort. C'est lui qui a pris mes péchés. Vous ne savez pas combien de personnes vous pouvez amener à Christ comme ça. Oui, ne commencez pas en disant, vous savez, tout le monde est pécheur, hein? Vous êtes le premier. Hein? C'est parce que, n'est-ce pas, la Bible dit dans cette façon-là. Et bien sûr, vous allez en enfer. Si vous commencez comme ça, vous n'allez pas gagner beaucoup le monde. Mais si vous parlez de vous-même, ce que Christ a fait avec vous, dans votre cœur, combien il est merveilleux. Notre Sauveur est merveilleux. Vous parlez de lui, n'est-ce pas? Et oh, qu'est-ce que c'est merveilleux de se réveiller le matin et de savoir qu'il est là. Et de marcher avec lui toute la journée. Et de vivre avec lui. Christ est ma vie et la mort m'est en gain. Je sais ce qui m'attend. Voilà, vous parlez comme ça, vous savez, ça donne le goût. Hein. Ce docteur avec qui j'ai parlé là, hein, il a dit, où est votre église? Alors je lui donne un, ah bon, et, ah, oui, bon, très bien. Oh, il n'a pas dit, je vais venir. Mais, que sais-je, j'ai pas fini avec lui encore. Et j'espère que le Seigneur n'a pas fini avec lui encore. Que le Seigneur va continuer. Parce que Dieu travaille à travers nous. On oublie cela. On n'est pas seul. Hein? Christ est avec nous. Quand vous parlez, c'est Christ qui parle à travers vous. C'est pour cela qu'il voit Christ en vous. Oh, c'est merveilleux. L'emballage pur. L'emballage joli. Un langage qui dénote que vous avez quelque chose qui n'ont pas. C'est vite décelé. Hein. Dès que vous prononcez deux ou trois phrases, ils savent que vous n'êtes pas comme les autres. Qu'est-ce que vous avez que eux, ils n'ont pas? Vous avez la vie éternelle. Vous avez le pardon de vos péchés. Vous avez la certitude d'être avec lui, d'être assis à sa table pour l'éternité. Que quand vous mourrez, vous allez directement dans sa présence. Il faut le dire cela. Le monde a besoin d'entendre cela. Parce que le monde n'a aucun espoir, aucune espérance, perdu totalement dans leur péché. Et nous avons ce message. Ne tournez pas autour du pot. Allez-y directement. Gagnez des âmes. Oh, que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous, hein. Et qu'on voit les gens venir les uns après les autres, et qu'on leur parle, non pas du beau temps, non pas de nos vacances, mais de celui qui nous a sauvés. Amen. Je vous ai pas entendu. Ah, ok. Cette fois-ci, je vous ai entendu. Voilà. Oh, il serait bien que la beauté de Jésus soit vue à moi, qu'il est tout et qu'il soit mon roi. Ô Esprit divin, remplis mon chemin, afin que sa beauté soit vue en moi. Est-ce que sa beauté se voit en vous? Il faut. Si vous vivez près du Seigneur, sa beauté sera vue dans votre visage, dans vos paroles, dans vos actions, et vous allez être une bénédiction partout où vous passez, malgré vous. C'est ça qui est merveilleux. Parce que comme on est souvent une pierre d'achoppement pour les gens, à cause de quelque chose qu'on dit, à cause de nos actions, et on fait tomber les gens, autant on peut être une pierre sur laquelle il peut monter plus haut. Que la beauté de Jésus soit vue en nous. Amen.